Voilà, bonjour à chacun. Ça sent un peu les vacances. C'est sympa d'être en vacances quand on peut s'arrêter puis se dire j'ai rien qui me court derrière la tête. Je peux poser les choses, je ne les emmène pas avec moi. Quelque part, j'ai fini la part qui était la mienne et je peux partir en vacances tranquille. De la même manière, vous avez un certain plaisir lorsque vous êtes invité quelque part et puis que la maîtresse de maison vous dit « Venez, tout est prêt ». Vous arrivez et vous n'êtes pas en train de vous dire « Mais qu'est-ce que j'aurais pu faire ceci, qu'est-ce que j'aurais pu faire cela ?» Vous avez un sentiment de bien-être lorsque quelqu'un vous dit « Tout est accompli ». J'aimerais vous laisser juste un instant effleurer cette parole, tout est accompli. Et quelle implication ou quelle conséquence ça pourrait avoir dans votre vie ou dans votre maintenant. De se dire, tout est accompli. On le dit volontiers. On le pense. Quoique, notre vie ne traduit pas toujours cette paix et ce repos que nous donne le tout est accompli. Et on va regarder un petit peu ce matin, qu'est-ce que ça peut représenter, quelles sont les conséquences que ça peut avoir dans notre vie, d'effleurer ou de regarder un tout petit peu, on ne va pas faire une étude biblique, mais effleurer des choses qui sont tout est accompli. C'est une parole effectivement que le Christ a dit, et on l'a encore évoqué. Il y a un petit verset ici que je regardais tout à l'heure qui dit que tes œuvres sont belles, qu'elles sont grandes. Il y a des choses qui sont merveilleuses. Mais tout est accompli. Mais qu'est-ce qui a été accompli? Qu'est-ce qu'on met derrière ce mot « tout est accompli » ? Regardez un petit peu ce matin. Les œuvres qui ont été accomplies. On a une certaine dynamique. On a un petit fantasme qui traîne dans notre tête ou dans nos consciences, le syndrome de Marthe et Marie, vous savez, celle qui est très active et puis celle qui est dans l'adoration. Et on est toujours en train de courir après certaines choses, surtout vous, mesdames. Mais il y a des choses qui sont typiques. Et j'aimerais regarder avec vous un tout petit peu, quand on dit « tout est accompli », qu'est-ce qui a été accompli ? Par Dieu, le Père. L'œuvre de Dieu, il a créé toutes choses. Et il a trouvé que c'était bien, quelque chose de bien. Il nous a créé nous. Nous sommes son ouvrage. Je ne sais pas si vous arrivez à voir les textes. J'ai essayé d'épurer les textes pour ne voir peut-être que les choses qui m'intéressaient de partager avec vous. Et vous pouvez en rajouter un maximum. Je n'ai pas voulu vraiment faire une liste des choses comme ça. Mais dire des choses qui étaient pour moi sensibles à partager avec vous. La puissance de Dieu, Père, a ressuscité le Christ, et c'est pour ça qu'on arrive à être là ce matin. C'est un don de Dieu. Ce que nous vivons est un don de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu en nous. Il nous a tout donné. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. C'est sympa, qu'est-ce que je pourrais faire que j'aimerais faire la volonté de Dieu. C'est un verset qui a pour moi une certaine forme d'ambiguïté. L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Est-ce que quand je crois, c'est moi qui fais l'œuvre de Dieu? Ou est-ce que quand je crois, c'est le Saint-Esprit qui en moi produit cela? J'aime bien ce mouvement entre ces deux idées, parce que l'une et l'autre sont justes. Mais elle révèle une dimension un peu plus différente de cette dynamique de la foi qu'on ne peut pas produire nous-mêmes, qu'on désire fondamentalement. Quand le Saint-Esprit viendra, et on le verra tout à l'heure, il convaincra le monde de péché en ce qu'ils n'ont pas cru. Il n'y a pas d'autre péché. Tous les autres péchés que nous vivons sont des conséquences de celui-là. Mais croire, on ne peut pas produire ça nous-mêmes. Donc en croyant, on accomplit l'œuvre de Dieu, et en même temps, c'est l'œuvre de Dieu qui s'accomplit en nous par son Esprit. Les œuvres de Dieu, fils. Vous connaissez bien ces textes, effectivement. Je ne veux pas non plus vous les apprendre, mais c'est extraordinaire qu'il est venu apporter une bonne nouvelle à ceux qui étaient en difficulté, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance. Je suis visiteur de prison, puis je suis en train de parler de l'évangile avec un gars qui est en tôle depuis plus de 20 ans et qui y est encore pour un bon moment. Et et qu'ils voient une espérance au travers du message de l'évangile qu'on arrive à partager. Il y a un tunnel au fond de lui, puis quand il y a une lumière qui vient, il se dit, il y a une lumière au fond de ce tunnel. C'est pas un train qui vient en face, c'est vraiment peut-être le bout du tunnel. Il est venu accomplir, et on le voit, tout est accompli. Puis j'aime bien d'autres petites choses qui sont avec. Il est venu mettre la division, et on n'aime pas tellement parler de cela. On aime bien voir Jésus, qui est sympa, qui est miséricordieux, qui est plein de grâce, qui est plein de bonté, qui est plein d'amour envers nous. Oui, mais essayez de parler de Jésus là où vous allez. Essayez de prendre une position aujourd'hui sur le plan sociétal par rapport aux options de certaines politiques de société. Essayez d'aller dire que, que l'homosexualité vous pose un problème. Pas les homosexuels, hein, mais l'homosexualité. Ben demain, ça va être condamné. Essayez de dire certaines choses dans les milieux que vous fréquentez et vous allez vous rendre compte que quand vous prêchez Christ, vous créez juste un peu de division. Donc, je suis venu apporter l'épée, je suis venu apporter la division. C'est pas un message qu'on a l'habitude d'entendre, mais on se rend bien compte que c'est pas simple. C'est pour cela que je suis venu à cette heure, la Sainte Cène qu'on vient de célébrer. Jésus aurait parlé, Jésus aurait fait les miracles qu'il avait fait, et encore bien plus, comme dit Jean, qu'on n'arriverait pas à remplir tous les bouquins, s'il n'était pas mort. Pour moi, ça n'aurait servi à rien. Il était venu là pour ça, et dès le début, il le savait. Et tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a fait n'était là que pour témoigner qu'il était véritablement ce Christ envoyé de Dieu, béni de Dieu, pour venir accomplir la seule chose qui était nécessaire pour que je sois sauvé. Ni plus, ni moins. Et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, voici toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une puissance que le Christ opère en nous par cette délivrance, par cette croix. Et c'est fondamental pour nous de le saisir, de l'approcher, d'appréhender cette réalité que toutes choses sont devenues nouvelles. On reviendra tout à l'heure. Voilà, je me plante. Les œuvres de Dieu, Saint-Esprit. Il y a un tas de théologies qui découlent de l'effusion de l'Esprit, de différentes manières. Les expériences sont là, par contre. Ce qu'on dit de ces expériences peut parfois être critiquable. Mais la puissance de l'Esprit, la réalité du Saint-Esprit est quelque chose d'essentiel. Parce que si on ne l'a pas, on ne peut juste pas réfléchir ni faire quoi que ce soit. Et c'est par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Je ne veux pas prétendre être prophète ce matin, mais je ne peux pas être là s'il n'y a pas eu quelque chose avant que je vienne qui est de l'ordre de l'inspiration du Saint-Esprit pour partager, pour regarder, pour dire, bah, tiens, il y a quelque chose que je peux transmettre ce matin. Et l'Esprit vient rendre témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas le produit de l'intelligence, ce n'est pas le produit des études théologiques. Il y a combien de pasteurs, combien de gens qui ont fait de la théologie et qui n'ont jamais rencontré le Christ ? Ils en parlent comme quelque chose qui est là-bas, mais ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils connaissent le mode d'emploi, mais ils ne savent pas comment ça marche. Ils n'ont pas l'outil. L'Esprit nous conduit, oui, dans toutes les situations de nos vies. L'Esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. C'est effectivement cet Esprit-là qui va nous révéler ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a accompli, ce qui s'attache à l'espérance de Jésus, ce qui concerne effectivement la puissance, le tout est accompli de Jésus, c'est l'Esprit qui nous le révèle petit à petit parce que notre intelligence n'est pas suffisante pour comprendre ça d'un bloc, puis ça serait dommage. Alors que là, ça dure toute la vie, de pouvoir découvrir petit à petit ces choses. L'Esprit vient de Dieu pour que nous connaissions ces choses-là. Il veut vraiment nous les révéler. Quand on parle de mystère, c'est pas quelque chose qui doit rester caché, le mystère de l'Église, tous les mystères qui s'attachent, ce sont des choses que l'Esprit vient pour nous les révéler. Et je le disais avant, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. J'aime bien ce péché-là, je vous le disais avant, puis je le souligne et je le redis encore une fois. Nous demandons pardon pour nos péchés. Relisez un petit peu Jacques, la tentation, le péché, ceci et cela. Le péché, c'est de ne pas croire. J'ai travaillé pendant 35 ans avec des personnes qui étaient dépendantes, toxicodépendantes, et qui me disaient « mais je me suis cassé la figure » quand ils avaient reconsommé un produit. Il est non. C'est pas là que t'es tombé. À quel moment s'inscrit dans la tête de quelqu'un, pour un toxicomane, le désir de produit? À quel moment s'inscrit dans votre conscience le péché, la tentation? Il y a un moment où vous avez tout à fait la possibilité de choisir entre droite et gauche. Si vous ne le faites pas à ce moment-là, vous péchez. Si vous ne croyez pas que le Christ peut venir vous secourir à ce moment-là, vous laissez s'installer en vous un processus qui va vous conduire à la faute. Mais ce n'est pas la faute qui est le péché. Ne demandez pas pardon parce que vous êtes tombé. Demandez pardon parce que vous n'avez pas saisi la main que le Christ vous tendait pour éviter de tomber. Ça modifie considérablement notre rapport au péché et notre rapport à la grâce. De considérer que véritablement le péché, ce n'est pas la conséquence visible de ce que nous voyons. Notre péché, c'est de ne pas croire au fond de nous au moment où le Christ s'offre à nous pour nous offrir une alternative. C'est là que nous péchons. Et après, on le paye. Quand je désobéis, qu'on me dit « ne mets pas la main sur la plaque », c'est pas quand je me brûle que je pêche. C'est quand je désobéis. Donc ce verset, pour moi, m'est cher, parce qu'il m'a permis de décoder et de pouvoir faire face à bien des situations en remontant à la source du problème. Alors qu'on a encore cette liberté, j'ai mis devant toi la vie et la mort, choisis. J'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis. Et c'est là qu'on pêche. Après, on en paye les conséquences. Elles se traduisent, elles deviennent visibles. Un autre sujet, les œuvres de Dieu, d'accord, Père, Fils et Saint-Esprit, et les œuvres de la nature. Dieu dit que la terre produise, et la terre produisit. La terre produisit, et Dieu vit que cela était bon. Que les eaux produisent, que la terre produise, selon leur espèce, et cela fut ainsi. Le règne minéral, animal et végétal est en perpétuel mouvement. Dieu a donné la vie, et j'insiste là-dessus, la vie vit. La vie vit en vous, la vie produit en vous. La nature produit. Dieu n'est pas toujours en train de dire à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite. Dieu a une puissance de vie qu'il a donnée et la terre produit. Il y a cette puissance de vie qui est en nous, qui produit quelque chose. Le Saint-Esprit crée en nous le vouloir et le faire. Les choses sont une dynamique de vie qui est heureuse. Et j'aime bien se prendre conscience de cela. Dieu nous a donné quelque chose. Dieu nous a donné la vie. Et après, quelque part, il nous dit « vie ». Ça ne veut pas dire qu'on ne peut faire sans Dieu. On dit bien « rien n'est possible sans lui, tout est impossible ». On sait ça. Mais quand on dit ça, quelque part, on fait une petite transgression quant à la grâce que Dieu nous a faite de nous dire « je te donne la vie, que cette vie vive en toi, que cette vie produise en toi quelque chose. Je ne vais pas toujours être derrière toi, comprenez ce que je suis en train de dire, hein, en train de dire « va à droite, va à gauche, habille-toi comme ça, ceci, cela, non, ne fais pas ça. » Dieu nous a donné la vie. Elle est une confiance en nous par le Saint-Esprit qu'il nous a donné pour que ça produise en nous quelque chose qui va vivre naturellement. Nous avons à développer les compétences que Dieu nous a données, pas pour nous priver de lui. De la même manière qu'un maître d'apprentissage transmet un savoir à un apprenti, à un moment donné à un autre, il va faire « regarde comment je fais, viens, je vais faire avec toi, fais-le, je te regarde faire, et puis après, va vivre ta vie et fais ce que tu as appris. » Je te fais confiance. Jésus dormait au fond de la barque en pleine tempête parce qu'il faisait confiance à ses disciples. Donc vous invitez à prendre conscience que par le Saint-Esprit, la vie que vous avez reçue produit en vous des choses qui vous donnent une grande marge de liberté d'aller à droite ou d'aller à gauche. En tenant compte de tout ce que vous avez reçu, c'est pas de faire de cette liberté ce qu'on veut. Mais il y a une puissance de vie qui est en nous qui est extraordinaire. Et la terre produit des choses. Vous voyez pas ces photos-là. C'est pas grave. L'oiseau, c'est un pan. C'est juste énorme, un pan, quand vous le regardez. On a un ami qui cultive, qui a des pans dans son jardin. C'est juste incroyable. Vous allez aux grottes de Valorbe, dont on a parlé dernièrement à la télé. Il y a une exposition de minéraux. Quand on voit ce que la terre produit comme minéraux, je ne veux pas parler du diamant, hein, c'est pas ça, mais parce que lui, il est façonné après par l'homme. Mais des minéraux tellement parfaits, tellement des structures qui sont extraordinaires, la terre produit cela. La terre produit les papillons. On est contre l'évolution, mais dans chaque espèce, les choses ont évolué. La diversité des papillons. On a un ami, moi, que j'aurais jamais pensé, il se promène beaucoup en camping-car, et il s'est découvert une passion des papillons. Il fait des photos de papillons, mais c'est incroyable, c'est magnifique. Enfin, vous voyez tout autour, c'est juste beau. Le monde sous-marin, les fleurs, enfin, la terre produit ça. Parce que Dieu a donné la vie, et il a dit que la terre produise. Ça, c'est pour la part de Dieu, puis pour la part de la nature. Pour notre part, parce qu'on a bien une application quelque part. On a, ce que je disais avant un petit peu, une certaine forme de tension. C'est pour ça que je l'ai représenté un petit peu par ce dessin comme ça, cette chaîne qui se transforme en colombe. Éphésiens, car nous sommes son ouvrage, on l'a vu avant, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Tout est accompli, puis on est quand même appelé à pratiquer des bonnes œuvres. Et dans Hébreux, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ? On voit quand même dans ces textes apparaître que, même si tout est accompli, on a une part de dynamique en nous qui va s'exercer, qui va se manifester. Deux personnes en parlent d'une manière assez particulière et assez sympa. Enfin, vous connaissez ces choses-là. La première, c'est Paul, qui dit, je vous le lis parce que c'est effectivement un peu petit, il faudra vraiment, je pense, à écrire plus grand quand je viens chez vous. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Et puis à côté de ça, il y a Jacques qui lui dit « Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile ? Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que par les œuvres de la foi, afin que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. » Est-ce qu'il y aurait une tension entre Paul et Jacques ? Et on voit bien ce dilemme, comme je le disais avant, un petit coup de Marthe, un petit coup de Marie, des choses qui s'opposent ensemble, non, c'est pas la peine, il faut faire... Et qu'on est dans une certaine forme de dualité en nous, régulièrement, entre le faire, l'être, le paraître, des tensions qui viennent se mettre comme ça, comment faire ces choses-là ? Les œuvres de la loi, Paul nous en parle, et Jacques nous parle des œuvres de la foi. Ce sont des choses qui sont fondamentalement différentes, encore bien même qu'on ne parle que d'une même chose, mais ce qui va faire la différence, c'est pas l'œuvre. C'est pas la chose qu'on fait qui fait la différence. Les œuvres mortes de la loi, elles sont là dans un principe que vous pouvez très très bien décoder. C'est pour obtenir quelque chose. On fait quelque chose pour, en pensant qu'effectivement ce qui est accompli, peut-être pas tout à fait. Puis qu'on pourrait peut-être rajouter quelque chose. Donc, quand on parle des œuvres de la loi, il y a un objectif, il y a une dynamique qui est particulière à ce niveau-là. Et c'est pour ça que Paul, dans l'hébreu, pardon, nous invite à ne pas reposer systématiquement et tout le temps le renoncement aux œuvres mortes. C'est quelque chose qui devrait être acquis. Ne plus jamais être dans une logique de faire quelque chose pour. En imaginant qu'on va avoir un certain mérite, que pour dans certaines situations, on a même l'impression d'avoir une certaine forme de modestie, d'humilité en faisant certaines choses. C'est juste de l'orgueil déguisé. On doit renoncer systématiquement, donc pour renoncer il faut identifier, mais d'être attentif à discerner dans ce qui nous anime ce principe des œuvres mortes. Parce qu'on voit effectivement, comme dit Paul, que dans notre corps, il y a cette dualité, il y a ce désir toujours humain de venir rajouter quelque chose, qui vient s'immiscer dans notre désir et qui vient impulser quelque chose qui n'est pas animé par l'Esprit de Dieu. Qui me délivrera de ce corps de mort, dit Paul, et vous connaissez la réponse. Mais pour bien dire que dans ce corps, il y a cette dualité qui est toujours en train de se manifester. Et aussi, de pouvoir dénoncer, alors pas au sens méchant du terme, c'est pas ce que je veux dire, reconnaître, comme dit Paul, qu'ils ont du zèle pour Dieu. Bien des gens font des choses, sincèrement, pour Dieu, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu et cherchant à établir leur propre justice. Ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Il y a un tas de personnes qui sont religieuses. La première prédication que je suis venu apporter ici était croire ou naître. Il y a beaucoup de croyants autour de vous et parfois dans nos communautés qui sincèrement cherchent à faire la volonté de Dieu, mais par leur propre force. Et on voit que c'est fatigant. On voit des gens qui passent en dépression, on voit des gens qui en ont fatigué, qui s'arrêtent, j'ai essayé, ça marche pas. Il y a des gens, mais qui sincèrement... Le 13 août, ma sœur, 72 ans, va se faire baptiser à Valence, sortant de l'Église catholique. Je dis sortant de l'Église catholique. C'est un truc qui m'est apparu comme moi-même, j'en sortais aussi quand on s'est converti, mais pas de la même manière. Elle a pratiqué quand même pendant 72 ans, toute sa vie, et ses yeux se sont ouverts par le Saint-Esprit. Et elle se rend compte à quel point... Ouais, ça fait un peu bête de le dire comme ça, mais le système catholique ne parle pas de l'Évangile. C'est inspiré de l'Évangile pour un tas de choses, mais ne parle pas de l'Évangile. Et elle découvre ces choses. C'est violent comme expérience, je peux te dire, mes yeux s'ouvrent et ce qu'on me disait, ce qu'on me racontait, ne correspond pas à ce que je vois quand mes yeux sont ouverts. Et elle était sincère. Et je ne peux pas contester sa sincérité. Et Paul va plus loin en disant, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Et ça, ce sont les œuvres mortes qui se manifestent en nous. Que parfois notre désir, notre volonté de faire certaines choses part d'un bon sentiment, mais ça ne procède pas de la grâce et de la vie de l'Esprit. Faisons de temps en temps un petit tour d'horizon des choses que nous faisons. Et quand on est fatigué, posons-nous la question, mais comment se fait-ce que je sois si fatigué ? Si Dieu me rend compétent, si Dieu me donne la force de faire ce qu'il me demande de faire, pour autant que ce soit ces œuvres-là, la fatigue, je peux être fatigué en fin de journée, Jésus dormait au fond de la barque, il était fatigué, il avait toutes les raisons de l'être, mais pas fatigué ici. Si je suis fatigué ici de ce que je fais, je dois me poser la question. Par quelle force, par quelle énergie est-ce que je le fais? Si cette énergie s'épuise, c'est que c'est la mienne. Donc c'est un bon indicateur. Quand vous êtes fatigué, posez-vous la question pourquoi vous êtes fatigué. Mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Les œuvres de la foi, c'est une conséquence. C'est parce que nous avons que nous pouvons faire certaines choses, pas pour obtenir. Et on va voir effectivement que dans cette dynamique des œuvres de la foi, il y a quelque chose qui est une dynamique. Paul dit « je cours ». Oubliant ce qui est en arrière, je me porte vers ce qui est en avant, je cours vers le but, oubliant ce qui est en arrière. Un petit coup de sécateur dans certaines pensées. Oubliant ce qui est en arrière, oubliant votre vie passée. Combien dans bien des situations, nous sommes ramenés à notre vie passée, soit par une prédication, soit par un conseil de relation d'aide. Ces blessures du passé. Ces blessures du passé qui concernent qui ? Véritablement. Votre histoire est faite de certaines choses, votre enfance est faite de certaines choses. Est-ce que c'est aller guérir votre enfance oubliant ce qui est en arrière, reconnaître que vous êtes mort en Christ. Oublier ce qui est en arrière, c'est pas faire comme si ça n'avait pas existé, mais se reconnaître qu'il y a juste un fossé à cause de ce qui est accompli par le Christ, que votre passé n'a plus aucun droit sur votre présent. Lorsque Satan vous parle de votre passé, parlez-lui de son avenir. Et ça, c'est une puissance et une dynamique de vie qui est fondamentale, à laquelle on doit être particulièrement attentif. Il y a une vraie progression de cette vie qui nous a été donnée, de la même manière qu'il y a une croissance d'un arbre, qu'il y a une croissance naturelle, de ce que, voilà, on a l'âge qu'on a et on a grandi. On a fait quoi pour grandir? On a mangé. C'est bien la seule chose qu'on peut faire. Bodybuilding ou ces choses-là, ça ne va pas vous faire grandir, hein, j'entends ça au contraire, mais on ne peut rien faire d'autre. Mais cette dynamique de vie, elle produit en nous quelque chose qui est dans la croissance. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique. Ces bonnes œuvres-là ne vont pas nous fatiguer. Ces bonnes œuvres-là vont nous occuper parce qu'il y en a largement de quoi faire. On ne va pas rester inactif. Même si, pour le plaisir de la retraite, on a de larges moments, de larges plages de temps à ne rien faire. Mais ne rien faire, il faut le faire. Et il faut bien le faire. Et là, je suis champion. Le seul problème qu'on a quand on est à la retraite, c'est qu'on n'a plus de vacances. Ça, c'est embêtant. Ces œuvres que Dieu a préparées d'avance afin qu'on les pratique, notre seul souci devrait être, dans notre prière, « Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi ?» Ce faisant, Dieu vous qualifie pour faire ce qu'il attend de vous. Il n'attend pas que vous soyez qualifié pour le faire. Il va simplement vous qualifier pour le faire. Ça change la donne, la confiance qu'on peut avoir en Dieu pour les choses qu'il nous demande d'accomplir. Je veux bien aller, Seigneur, mais tu me donnes de quoi nécessaire, parce que j'ai pas. Moi, en étant devant vous, non, j'ai besoin de cette confiance-là. Ça me laisse la paix tranquille, hier soir, de ne pas me faire d'un souci monstre, pour dire, qu'est-ce que je vais leur dire demain matin? Non, je suis en paix. Je crois qu'ici, j'ai ce que j'ai à partager avec vous. Parce que c'est pas appris, j'ai pas été chercher quelque part de là pour vous l'amener ici. C'est si je l'ai pas digéré, si je l'ai pas ingéré, si je l'ai pas incarné, c'est pas la peine que je vous en parle, c'est de la tchatch. Donc ma paix, elle est tranquille, parce qu'effectivement, Dieu me donne ce dont j'ai besoin pour vous le transmettre. Une dynamique des œuvres de la foi. Rendez continuellement grâce à Dieu. Abonder en actions de grâce. Voilà des œuvres. Actions de grâce. Ce n'est pas des choses qui vont produire quelque chose d'autre pour obtenir, non. C'est des retours. Seigneur, nous te rendons grâce. C'est marrant comme expression. Nous te rendons grâce. Et nous faisons des actions de grâce. Cette dynamique-là, dans notre vie, ce que nous faisons doit être fondamentalement inspiré par la reconnaissance. À ce moment-là, toute la nature de ce que nous faisons ne change pas, les choses, elles sont exactement les mêmes, mais l'esprit dans lequel on les fait, c'est fondamentalement différent. Et dans ce coin, on a du plaisir. Dernièrement, on a aussi une petite communauté, ça va pas toujours facile, et une personne nous dit, mais t'es pas lassé? On avait eu un groupe de louanges qui s'était retiré parce qu'ils étaient fatigués de faire la louange dans notre communauté. Bizarre. Non, pas lassé. Cette dynamique des œuvres de la foi nous invite aussi à travailler. Mais avec l'esprit qui nous anime. Travaillez à votre salut, dit la version. Travaillez votre salut, c'est-à-dire que ce que vous avez reçu, que ça croisse, qu'on s'attache effectivement à le peaufiner, à l'embellir, à entretenir, comme un jardin, entretenez votre salut. Nourrissez-vous. On avait une jeune fille comme ça qui venait un coup, je la croisais dans un anniversaire de famille, puis je lui fais, puis comment ça va ta foi? Oh, c'est difficile, c'est pas toujours simple. Puis je lui fais, t'as mangé quand la dernière fois? Je fais, mais ta foi, ça se nourrit. Quand évangélique, on n'a fait que manger pour être ce qu'on est. Notre foi ne peut pas grandir si elle ne se nourrit pas, et on ne peut faire qu'une chose pour la faire grandir, c'est lui donner à manger. Par la connaissance de la parole, par des lectures, par des choses, par des actions de grâce. Travaillons à notre salut, travaillons notre salut. Cette richesse, ce cadeau que Dieu nous a donné, entretenons-le. Afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, il y a effectivement cette dimension dont Paul parlait, mais tout est dans la manière de les faire. C'est pour ça qu'on ne va pas nier qu'on a des choses qui sont à faire, mais les faire dans un bon esprit. Afin que l'homme soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est cette croissance dont je parlais avant. On est petit enfant, quand Paul le dit, je crois que c'est lui qui le disait, ou si dans les points, c'est pas grave, on n'est pas mature, il vous faut encore du lait, alors que vous devriez manger de la nourriture. Vous en êtes encore au stade des petits enfants, là, eh oh. Il faut peut-être manger du solide, parce qu'on ne va pas vous donner à manger de nouveau, on ne va pas vous donner la béquille jusqu'à... Non, on a à grandir, à croître, à avoir un esprit de jugement au sens d'apprécier les choses. L'homme spirituel juge de tout. On dit, non, on ne doit pas juger. Bien sûr qu'on doit juger. Ne savez-vous pas que vous jugerez les anges? Il ne s'agit pas de condamner, par contre, mais d'avoir une juste appréciation des situations et parfois des personnes avec lesquelles on vit, pour pouvoir les accompagner puis savoir à qui on cause. Est-ce que je parle à quelqu'un qui a rencontré le Christ ou est-ce que je parle à quelqu'un qui est un croyant sincère mais qui est en train de ramer à la force des poignets puis qui n'a pas reçu l'esprit qui peut lui permettre de vivre? J'ai à juger de cela. Se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ce que je disais avant, celui qui est accompagné, qui est animé par cet esprit de faire des choses dans l'action de grâce et autres, il y a un vrai plaisir. Il sera heureux dans son activité. Pas à chercher, oh j'en ai marre de faire cette louange, je veux toujours tirer les gens, puis là il n'y a pas de musicien, puis oh là là, t'as vu un peu comment on chante, ça s'appelle là, on ne connaît même pas les chants. Il y a un vrai plaisir à louer Dieu malgré tout dans ces moments-là. Parce que ce qui nous anime, c'est la louange de Dieu, c'est pas l'orchestre, c'est pas la perfection, Dieu regarde au cœur. On a un fils, il a un cancer du larynx, il parle comme ça. Il va à l'église de Rouen. Là-bas, ça pète, hein. Il est triste de ne pas pouvoir chanter puissamment. Mais Dieu regarde au cœur. Que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Cette dynamique de vie est une dynamique de croissance. Et on a à grandir. On ne peut pas rester des petits-enfants dans la foi et dire, enfin, dans les discours qu'on a, de se dire, enfin, on est vraiment dans le béaba de la foi? Ça fait 25 ans, 30 ans que tu es chrétien, puis tu te poses encore ces questions-là, enfin, j'entends, c'est juste dommage. Donc on a à nourrir notre foi pour qu'elle croisse, qu'on devienne des hommes accomplis en cours de route. Mon père fait de la peinture, enfin il faisait de la peinture quand il était encore vivant, et un coup devant une toile, j'ai le souvenir de gosse comme ça, qu'il avait fait quelques traits de crayon sur sa toile, puis qu'il s'est reculé, puis qu'il a dit « Parfait !» Au stade où ça en était, c'était parfait. Au stade où j'en suis, permettez-moi de penser que je suis parfait. Je ne suis pas fini. Au stade où j'en suis, je peux être reconnaissant de ce que Dieu fait de ma vie, malgré toutes les résistances qui sont les miennes. Mais ce que Dieu accomplit en moi, au stade où j'en suis, j'ai envie de lui dire merci, et pas de lui dire quand même, tu aurais pu me faire mieux, ou différent. Mais de reconnaître que ce que Dieu fait de vous, c'est bien. Et dernièrement, notre attitude à l'égard des autres. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. On a un témoignage à rendre par notre attitude, pas simplement dans le faire, mais dans l'attitude qu'on a au boulot, à la boulangerie, à la plage, en moto. Moi, je fais de la moto. Parfois, j'ai une veste, il y a marqué « Jesus Biker », puis j'ai une tête de Christ derrière, je roule pas pareil que si je la mets pas. Alors parfois, on était à la journée des motards la semaine passée. C'est la journée des motards, c'est organisé par des motards chrétiens. Mais on a tous un petit virus quand même, quand la route commence à être un petit peu comme ça. À dire 80, c'est quand même un peu lent. Donc on sait ces choses-là. Mais notre attitude, il faut qu'on puisse assumer ce qu'on est, afin que les autres glorifient Dieu en disant, tiens, c'est marrant, quand je te vois faire ça, je trouve il y a quelque chose qui est intéressant. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant, enseignez-les, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Là, il y a quand même une mission qui nous est confiée. Faites de toutes les nations des disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est une prédication qui doit retrouver une place fondamentale dans notre vie d'Église. Annoncer le véritable évangile. Ne pas se satisfaire d'une petite fleur qui a grandi rapidement, puis c'est génial, et puis qui craque. Ne pas se satisfaire de quelqu'un qui a poussé, et puis qui est étouffé par les problèmes de la vie, et qui finit par mourir. Mais d'annoncer véritablement un évangile dont le tout est accompli, qui amène des gens à un changement d'attitude, qu'ils vont confirmer. Pour ma sœur, se faire baptiser, c'est devenu essentiel très rapidement. C'est-à-dire marquer son territoire. Je choisis. Et je veux que ça se voit. Et Jésus nous a demandé ça. Et il l'a dit à Paul, chaque fois quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? Faites ceci, baptisez-vous. Et vous recevrez le Saint-Esprit. On oublie trop souvent le côté vital, indispensable, de certaines obéissances qui témoignent que nous sommes morts en Christ. Rappelez-vous que c'est en sa mort que vous avez été baptisés. C'est pas un acte comme ça qui plane, bah oui, tu vois, non, mais quand j'aurai envie, je me ferai baptiser, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je me suis fait baptiser quand j'étais petit, mais alors, revisitons certaines choses qui sont essentielles. Pour pouvoir nous réclamer véritablement de la grâce qui nous a été accordée en Christ. Et je finis sur celui-là. Dès lors, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Dans les actions de grâce, instruisez-vous, exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, les chants qu'on a chantés tout à l'heure, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Ça ne va pas nous laisser inactifs. Amen. Seigneur, merci pour toi. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie, totale, pleine, suffisante. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné, Seigneur, qui vient produire en nous le vouloir et le faire. Merci aussi parce que ta parole est vivante et qu'elle peut discerner en nous, séparer en nous ce qui est de toi, ce qui n'est pas de toi. Que tu nous donnes cette liberté du choix. Seigneur, merci pour cette vie, cette dynamique de vie que par ton esprit et par ta grâce tu as mis dans nos vies, pour que nous puissions aussi témoigner de toi et que tu sois glorifié au travers de nous. Merci pour toi, Seigneur. Amen.